Angle mort du 13 mai, salut tout le monde, merci à ceux qui m'écrivent, comme d'habitude, c'est toujours le fun. Il y a Chloé qui m'a envoyé une question super intéressante, mais là, il y a quelque chose que je viens de lire qui m'a interpellé, c'est une vieille affaire, pas une vieille affaire, mais quelque chose que je voulais vous parler depuis un bout de temps, puis là, ça me saute aux yeux, c'est un article dans Le Monde ce matin, dont le titre est « Les nostalgiques du confinement rushing à quitter leur cocon ». Alors, je vous lis ce que Marlène, professeure de français en disponibilité, donc on va en dire qu'il travaille pas, qui réside dans une maison avec un jardin d'un village de Loire-Atlantique. « Pendant le confinement, je me suis senti libérée de toutes les obligations sociales et j'ai pris l'ascendant sur mon emploi du temps. Plaisir d'avoir mon mari à la maison 24 sur 24, alors qu'en temps normal, il est absent de 8h à 20h. Plaisir de planifier, cuisiner, déguster des bons petits plats, de courir régulièrement dans la campagne alentour. Plaisir de lire en journée, réfléchir, rien faire, voir, revoir des films cultes de mon enfance avec mes enfants. » Ben, résume la vie que nos parents ont eue. C'est drôle, hein? Actuellement, là, tout le monde réalise la pression que tout le monde se fait. Puis plein de monde, dont moi le premier, ont pu casser quelque chose, casser une course, casser un candidaton, casser ce que des fois on ne s'avoue pas, c'est-à-dire on fait ça pour ce que ça a de l'air et non pas pour ce que ça devrait être réellement pour nous autres. Et ce discours-là, là, si je lis ça à ma mère, elle va dire, ben là, de quoi qu'elle parle? C'est quoi qui est spécial de dire que tu es avec tes enfants, tu prépares à manger, tu fais un souper, tu vas prendre une marche, tu nettoies ce qui est sale. C'est la vie de ma mère. La fille découvre la vie que sa grand-mère, là, dans son cas, elle doit avoir 20 ans, mettons, 25, 30, peu importe, que sa grand-mère vivait, tu sais. Puis Éric Zemmour a déjà dit ça, il dit, si mon grand-père revenait à la vie, il trouverait que les combats que je mène, c'est insignifiant. C'est la façon que la vie se menait dans le temps. Ça fait que ça veut pas dire que la vie dans le temps était meilleure. Ça veut pas dire que, tu sais, je veux pas embarquer dans la ritournelle. Ouais, mais ta mère, peut-être qu'elle aurait voulu faire autre chose. Dans son cas, c'est non. Elle voulait exactement faire ce qu'elle a fait. Mais c'est pas ça le but, là. Je fais juste dire que c'est quand même très ironique qu'aujourd'hui, il y a, quand la pause est imposée, il y a tout à coup la révélation d'une vie qui nous apparaît comme « Ah, oh mon Dieu, c'est fantastique, wow, j'aurais pas cru », alors qu'avant, c'était que ça. C'était que ça, tu sais, je veux dire, le pourquoi du mariage, etc., tu sais, c'était fait pour fonder une famille. Il y avait une convention à l'époque de mes parents, donc ça a arrêté il y a peut-être quelques 30 ans, ça, 40 ans. La fin de cette espèce de convention-là que tout le monde suivait un peu aveuglément, imposée par ce que la religion avait encore comme culturellement. Tu sais, moi, mes grands-parents lisaient le chapelet dans le sol chez eux après chaque souper, tu sais, quand je me faisais garder là. C'est mes grands-parents, là. C'est pas Jacques Cartier là, qui faisait ça. Là. On parle de deux générations avant nous autres, là. Avant moi qui est dans la cinquantaine, tu sais. Puis donc, la religion avait une grosse emprise sur la vie en général, la vie en société. Puis bon, évidemment, on peut critiquer certaines affaires, libre à chacun, mais ça faisait en sorte qu'il y avait une convention. C'est-à-dire que quand tu arrivais à l'âge adulte, ben il y avait une façon de faire. Tu te mariais, tu avais des enfants, etc. Puis quand tu te mariais, il y avait une convention aussi. Bref, tout était un peu comme précalculé. Puis tu t'y retrouvais là-dedans, puis tu personnalisais ça du mieux que tu peux, tu te matchais de la façon que tu pouvais, etc. Puis là, après ça, mais ça a été pété par mai 68, puis ça a été pété par plein d'affaires, plein de mouvements qui ont voulu individualiser la société, si on veut, c'est-à-dire que d'arrêter de dire qu'il y avait une convention au-dessus de nos têtes, puis qu'on pouvait à quelque part être qui on veut, comme on veut, etc. Ben, évidemment, moi, dans mon cas, je pense que ça a été très, très, très payant. Là. J'ai manifestement pas vécu une vie dans un carcan imposé, là, au plan personnel d'abord, puis professionnel encore plus. Mais il reste que, est-ce qu'au final, l'ensemble des gens sont sortis gagnants de tout ça? Moi, à un moment donné, en ligne ouverte, j'avais posé une question toute simple. J'avais dit, là, aujourd'hui, je veux juste des filles qui m'appellent, idéalement entre 25 et 45. Puis la consigne avait été respectée. Il n'y a aucun gars qui m'avait appelé. Puis j'avais posé une question toute simple. Je lui ai dit, là, on pourrait rentrer dans le détail. Je vais juste vous poser une question qu'on ne pose jamais. Tu sais, on dit souvent, ah, c'est le féminisme, c'est fantastique, puis telle affaire, puis ci, puis l'avancement, puis tout ça. OK, parfait. Mais je pose une petite question que personne ne pose. OK, puis je la pose aux filles de 25 à 45. Êtes-vous plus heureuse que vos mères? C'est banal. C'est une question niaiseuse, à la rigueur, mais bizarrement, je l'ai jamais entendu. C'est que moi, je vous la pose. Mais pendant une heure et demie de temps, j'ai juste eu des appels de filles qui m'ont dit non, d'entrée de jeu. Direct, non. Je suis pas plus heureuse que ma mère. J'ai bien plus de possibilités. Je fais une carrière qui pourrait leur être non seulement probablement inintéressante, mais au-delà de ça, impossible, parce qu'on n'aurait pas voulu qu'une femme occupe ce type de poste-là, d'emploi-là, etc. Donc, c'est très intéressant, parce que ça revient à dire, c'est pas parce que tu es plus libre que la finalité, qui je pense est d'être heureux, être heureux sans nuire à son voisin, et au contraire, peut-être en donnant l'exemple puis en aidant d'autres à l'être. Moi, je pense que c'est une très belle façon de voir la vie en général, là, en société, chez les êtres humains, mettons. Là. Pour les lions, c'est peut-être autre chose. Ben, ça ne veut pas dire que d'être toujours plus heureux, toujours plus libre, égale plus de bonheur. Je suis désolé. Parce que quand je pose la question à des filles, êtes-vous plus heureuse que vos mères? J'ai une écrasante... Puis ça, je voulais dire, c'est un échantillon, ça vaut ce que ça vaut, mais je vous la pose à vous-même. Écrivez-moi, les filles qui m'écoutent. Écrivez-moi votre témoignage, mettons, là, en quelques lignes. Je lirai ça demain en début de podcast. Êtes-vous plus heureuse que vos mères? C'est facile comme question. Ça ne devrait pas être très confrontant. Êtes-vous plus heureuse que vos mères? Puis il y en a qui vont peut-être dire « Ah oui, mais là encore là, il y en a peut-être qui ont vu leur mère triste et malheureuse. Si votre mère, ça a été une femme battue qui s'est faite tromper, je veux bien croire que là... » Mais si vous avez eu des parents qui ont eu une vie, appelons ça plutôt standard... Ben là, c'est ça. Répondez-moi. Puis si vous dites « Oui, moi, je suis plus heureuse parce que, ben, tant mieux. J'ai d'avoir plus d'outils dans la vie, je ne voterai pas contre. » Mais moi, j'ai souvent cette idée-là que je ramène, qui est que c'est pas tout le monde qui sait quoi faire avec la liberté. Si on fait ce qu'on veut quand on veut, c'est pas nécessairement là que ça se passe. Dans un livre qui s'appelle « Entretien avec Jean-Paul II », qui est une personne très intéressante, c'est un docteur en théologie. Puis... C'est Jean-Paul Frossard qui a écrit ça, puis il racontait, il dit « C'est quoi la définition que vous donnez de la liberté? » Tu sais, puis sa réponse est géniale. Écoute, je m'en souviens mot à mot. Il dit « La définition adolescente de la liberté, c'est faire ce qu'on veut quand on veut. » Ça, c'est la définition adolescente. On fait quoi? À soir? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, jusqu'à l'âge de 17-18 ans, si j'étais chez nous un samedi soir, c'était un samedi pourri, je venais de gâcher une partie de ma vie. Là. C'est, il faut sortir, il faut vivre, etc. Parfait, c'est l'âge pour ça, c'est génial. Mais il dit « La vraie définition de la liberté, c'est pas ça. » Et là, écoutez bien, et c'est textuellement, il dit « La liberté, c'est faire ce que l'on veut, c'est vouloir et pouvoir faire ce que l'on doit faire et le vouloir réellement. » C'est hallucinant comme définition. Vouloir et pouvoir faire ce que l'on doit faire. Imagine, dans la définition de la liberté de Jean-Paul II, il y a le verbe « devoir » et le vouloir réellement. Quand tu décortiques ça, ce que ça veut dire, c'est que tu es libre quand tu fais exactement ce qui fit avec toi. Moi, ce qui fit avec ma réelle personne, réelle, pas celle imposée, pas celle que le monde me demande d'être, etc., c'est pas ce que mon voisin doit faire pour que ça lui ressemble à lui, par définition. Donc, si je fais juste qu'est-ce qui me tente quand je veux, j'ai pas encore répondu au critère de dire « Oui, mais est-ce que c'est ce que tu dois faire? Est-ce que c'est ce qui te convient? » Et je le répète, pas devoir dans le sens que ce que les autres ou la loi ou rien du monde extérieur. Chaque personne est unique, ça veut dire que chaque personne a une façon unique d'être heureuse. Alors, si tu fais ce que ta blonde te dit de faire, ce que ta mère t'a mis dans la tête, ben je suis désolé, mais t'es pas libre. C'est qu'après ça, tu peux te valoriser toute ta vie à dire que t'as suivi les consignes. Parfait, mais t'es pas libre. C'est pas ça la liberté. C'est fait que, est-ce que la liberté qui a été imposée par un paquet de mouvements, puis un paquet de façons de voir la vie, puis un paquet de trucs qui circulent, ont créé, oui, une liberté, mais est-ce qu'elle convient? Puis est-ce qu'elle arrive avec la finalité, c'est-à-dire êtes-vous plus heureux? Puis là, on peut sortir du champ là, de la rhétorique par rapport aux filles. Ça peut être des gars, des vieux, des gens, je m'en fous. Mais je fais juste dire que c'est... Alors, si on revient à l'article du Monde, c'est que c'est très drôle de voir des gens aujourd'hui qui, tout à coup, peuvent arrêter de courir parce que on se place un stress supplémentaire. Parce que là, évidemment, ça ramène une autre notion qui est la culpabilité. Il y a déjà un économiste qui avait dit que l'économie, en général, roule sur la culpabilité des gens. C'est-à-dire que si tout roule comme ça roule actuellement, ou du moins il y a deux mois, c'est parce qu'on est tout le temps, il y a tout le temps quelqu'un de coupable qui fera pas quelque chose, qui va faire quelque chose alors qu'il pourrait ne pas le faire. Puis là, la roue tourne. Puis c'est vrai, la culpabilité, c'est un moteur épouvantable. Le pas savoir dire non, pensez-vous que c'est pas payant, ça, pour le système capitaliste? Hein? Ça fait que c'est de la pure psychologie rendue là, c'est hallucinant. Ça fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont, je vous le dis, je le vis moi-même, qui ont la chance d'avoir aucune culpabilité ou surtout aucun de quoi ça va avoir de l'air, aucun signal à envoyer en se disant on fait tous un peu du théâtre, il faut tous qu'on ait de l'air un petit peu au-dessus de nos affaires, il faut que ça paraisse bien, il faut qu'on ait l'air winner. Il y a une pléiade de conférenciers qui sont juste dans cette espèce de truc-là avec leur belle cravate nouvelle en disant soyez des gagnants, puis oui, motivateux, puis blablabla. Il y en a plein. Je ne veux pas qu'ils les engagent, c'est toujours pour moi un grand mystère, mais bref. Bien là, aujourd'hui, ces raisons-là tombent. Ça veut dire que tu peux être chez vous à glander, tu peux être zéro productif, tu peux avoir une parfaite excuse pour dire que... Écoute, il y a un paquet de monde aujourd'hui qui vont changer de job, des artistes notamment, qui en arrachaient, mais jamais se seraient vus dire « j'arrête de vouloir jouer de la guitare ». J'ai entendu dire, je nommerai personne, mais je sais de source très sûre qu'il y a une chanteuse connue qui a commencé à penser à faire autre chose, puis qui a commencé à prendre des cours en se disant « Moi, mon métier, anyway, ça allait so-so, ça rapportait moyen, mais qu'est-ce que ça va avoir de l'air si je me mets à vendre des Tupperware, tu sais? » Ben, je sais pas quoi te dire, mais je sais juste qu'aujourd'hui, la réticence que des gens avaient à faire autre chose, parce que dans la vraie vie, il fallait vraiment qu'ils fassent autre chose, mais que ça paraissait tellement mal, puis que ça leur envoyait tellement un signal dévalorisant, que là, tout à coup, vient de tomber du ciel une excuse parfaite pour tout arrêter en disant « Ben, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est plate, hein? Hey, moi, j'aurais voulu continuer comme... Mais là, puis là, tu peux te forger tout un beau discours. » Bon, mais c'est très drôle de voir que l'excuse que le COVID donne pour pouvoir changer de vie parce que celle qu'on avait à quelque part était pas plaisante ou autre, puis pense à tous les couples qui vont péter, là, qui sont confinés ensemble, puis que ça allait déjà pas bien. Bon. Ben, ce que beaucoup de monde découvre comme étant la vie... aujourd'hui, c'est non seulement une vie qui, à quelque part, leur plaît énormément, dit que c'est ce que je viens de vous lire en début d'épisode, mais c'est une vie qui existait en grande partie avant tout le libéralisme, la mondialisation, le féminisme, tout le multiculturalisme, name it. C'était la vie que monsieur, madame, tout le monde, partout vivait, jusqu'à temps que l'individu devienne roi, puis que les médias sociaux embarquent là-dedans, puis que là, on t'entend tout et son contraire, c'est n'importe quoi. Ça fait que c'est très, très intéressant de voir qu'on fait juste réaliser à quelque part qu'il y avait une vie plus simple qui, à quelque part, nous ressemblait plus pour à peu près tout le monde. Alors, évidemment, il y a de l'adversité là-dedans. Moi, le premier, là, je suis pas content de comment les affaires roulent. Je suis super heureux que Saillant a recommencé les pubs, puis là, hier, on s'est fait un meeting, etc. Je me débrouille très bien, là, honnêtement. Mais je veux dire, j'aimais mieux l'air d'aller de ce qui se passait avant que tout à coup, tout est pété, là. Ça fait que moi aussi, je subis une partie de tout ça. Ça fait que c'est pas... Je suis pas en train de vous dire, regardez comme c'est jojo comme période. Du tout. C'est vraiment zéro, je retiens rien. Pour moi aussi, inquiétez-vous pas. Je suis en train de dire qu'il y a des révélations qui, ironiquement, révèlent le monde comme il était avant au plan du petit bonheur quotidien. Puis que l'enseignante que je vous lis qui dit hey, « moi, j'ai retrouvé, mon Dieu, quel plaisir d'être avec mes enfants, etc. » C'était la vie de toutes les femmes à l'époque. C'était moi, ma mère, là, elle me l'a dit souvent. Elle dit « Il y avait de ses amis qui avaient des enfants. » Elle a comme été dans la génération un peu entre les deux, là, fin du modèle traditionnel, début de l'autre. Puis elle dit « Elle avait des amis qui retournaient travailler. » Puis elle disait « J'y trouvais tellement zéro. Pourquoi vous allez travailler? Vous allez faire quoi? Vous n'aimez pas ça avoir des enfants? Vous venez d'avoir des enfants, c'est pas un sideline. C'est bien plus hot. T'es chez vous. Ma mère, là, oubliez pas une affaire, là, on était quatre enfants, plus Raoul, mon défunt chien pendant un bout. Puis mon père, toute sa carrière, puis il a arrêté de travailler à 74 ans, je pense. Il était représentant sa route. Il partait le lundi matin, archi tôt, genre 5 heures le matin, puis il se faisait l'est du Québec, puis il revenait le jeudi en toute fin de journée, quasiment pour l'heure du souper. C'est que le fait de le calcul, là, ma mère avait quatre enfants puis un chien. Quatre! Puis des petits, là, pas quatre enfants, des adultes qu'on ne sait pas s'ils vont rentrer à soir. Je te parle, un an... Mettons, quand j'avais un an, là, mon frère en avait six, puis mes soeurs, 9 et 10. Toute seule! 4 jours par semaine, toute seule! 4! À mène-en du confinement, je veux bien croire qu'il y en a qui allaient à l'école, puis l'autre qui était couché, ou peu importe. Mais quel... Tu parles d'une job! Puis elle, Sourire aux lèvres, là, ma mère n'arrête pas de dire « Ah, mon Dieu, les beaux souvenirs, quelle belle période, etc. » Une autre aurait pu dire « Moi, j'ai haï ça comme l'enfer. » Moi, à chacun, hein, je ne suis pas en train de dire « Faut faire ça. » Vous faites ce que vous voulez. Mais ironiquement, cette vie-là lui convenait parfaitement. La majorité, je pense, des femmes de cette époque-là, t'sais, parce que ça, c'est l'autre affaire. Je me souviens d'avoir lu, moi, j'ai lu le livre « Ma vie en trois actes » de Jeannette Bertrand, puis elle raconte un peu sa vie à elle, puis elle disait qu'elle était, pendant 16 ans de temps, elle a fait le courrier du cœur dans le Journal de Montréal. Puis c'est là que je me suis rendu compte de la souffrance des femmes. Attends un peu, la souffrance des femmes qui t'écrivaient. Je suis convaincu qu'elle en a vu de toutes les, lu de toutes les couleurs, puis ça lui a donné un élan féministe, etc., puis chapeau. Très bon travail. Cette femme-là a passé à l'histoire dans l'histoire du Québec, puis elle a joué un rôle pour la pensée féministe positive, celle qui a vraiment amené des changements, je crois, très bien, honnêtement. Mais sauf que si ma mère, on y avait dit, écris donc à Jeannette Bertrand, elle aurait dit, ben là, Marc, il fait ses nuits, André, s'est cassé un pognon en ski, c'est tout, là. Elle aurait rien eu d'épouvantable, bon. Ça fait que là, moi, je suis pas démographe, je peux pas vous dire, je suis pas sociologue, je dirais, je peux pas vous dire à cette époque-là, c'était quoi le sondage, étiez-vous heureuse, étiez-vous pas heureuse, c'est pas mon point. Mais quand on ramène ça aujourd'hui, je vous dis que posez-vous la question, les filles, puis écrivez-moi, ça m'intéresse. Êtes-vous plus heureuse que vos mères? Puis c'est loin de moi l'idée de pointer rien en disant c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. La vie, c'est complexe, la société dans laquelle on vit l'est encore plus. Le point, c'est juste de faire des constats. Puis après ça, de faire le lien avec le fait qu'aujourd'hui, moi comme d'autres, cette période-là où tout est à l'arrêt, bien, il y a beaucoup de monde autour de moi qui disent « Red Friend, mon ami Red Friend m'a dit « Tabarouette, lui, il est prof d'université, vient d'avoir un enfant, court partout. » Puis il fait « Hey, écoute, il dit sérieux, là, il dit j'aime tellement ça, il dit ce style de vie-là, est-ce que je suis plus à la maison, blablabla. » On découvre des affaires qui sont pour beaucoup la vie d'avant. Ça fait que je ne sais pas s'il y a un signal que qui est envoyé là-dedans, je ne sais pas. Regardez, libre à chacun, tirez votre conclusion. Aujourd'hui, des fois, j'essaie d'avoir une conclusion plus claire. Je fais juste dire, c'est matière à réflexion. Ça se peut-tu que quand tout le monde se ramasse avec le même problème puis que tout le monde est obligé d'être à quelque part à l'arrêt, on découvre que cette situation-là a fondamentalement pas qu'on est content, on ne veut pas que ça reste de même, mais qu'elle nous oblige à constater certaines affaires qui nous ramènent à... C'est quoi, dans le fond, qui serait une petite coche de bonheur de plus? Ça pourrait-tu être de courir moins après ce qu'on nous dit qu'il faut faire? C'est quoi la définition de la liberté? Je vous rappelle, la liberté, c'est un concept qui est flexible puis qui appartient à qui vous êtes vraiment. Si vous faites ce qui vous ressemble, moi, je pense que c'est là que vous êtes libre. Salut, à demain.